Gloire à toi, maître. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Nous allons donc nous préparer à l'écoute de sa parole. Sans plus tarder, nous allons nous incliner devant le Seigneur. Nous croyons en lui. Nous croyons dans sa parole. C'est parce que nous avons foi en lui que nous sommes là ce matin. C'est parce que nous savons, nous croyons qu'il est vivant au siècle des siècles, que ce matin nous n'avons pas hésité à venir dans sa maison pour le rencontrer, pour le louer, pour l'adorer. Après lui avoir exprimé nos sentiments de louange et d'adoration, nous voudrons maintenant nous asseoir à ses pieds avec crainte, avec révérence, pour lui tendre une oreille attentive afin qu'il nous parle. Nos cœurs ont soif de toi, Seigneur. Nos âmes ont faim de toi. Tu es le seul Seigneur qui puisse rencontrer nos besoins les plus intimes. Le seul Seigneur qui peut nous combler pleinement. Seigneur, au-delà de nos attentes, au-delà de notre expectative, tu es le seul dont la parole est puissante, efficace. Parole, Seigneur, dont tout notre être a besoin. Et ce matin, nous voulons implorer, Seigneur, ta grâce sur ta parole. Nous voulons que l'onction de ton esprit soit avec nous. Seigneur, que ce soit par ta capacité que nous proclamons ta parole. Que ce soit, Seigneur, grâce à ton intelligence que nous la saisissons, que nous la mettons en pratique. Oui, que ta parole vienne à nous, Seigneur, comme cette pluie de bénédiction qui descend et qui arrose la terre et qui permet à la semence de germer, Seigneur, et de produire du fruit. Arrose-nous de ta présence au travers de ta parole. Seigneur, nous voulons saisir cette opportunité pour manger ta parole, pour nous laisser, Seigneur, ô Dieu, pénétrer par ta pensée. Que cette pensée détruise tout ce qui est de l'homme. Que cette pensée, Seigneur, détruise tout génie en nous et qu'elle puisse, à la place, déposer une semence vivante et incorruptible. Et que cette semence croisse et nous permette d'aller de l'avant avec toi et d'expérimenter, Seigneur, la puissance de ton règne et les merveilles de ton royaume. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, tous nos auditeurs qui nous suivent, qu'ils puissent recevoir quelque chose que tu as préparé pour chacun d'eux. Parle-nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons eu une semaine très riche. Et je rends grâce à Dieu. Et ce matin, notre thème est formulé sous forme d'une requête que nous adressons au Seigneur. Je voudrais que la requête que le Seigneur, que les apôtres plutôt, avaient adressée au Seigneur, puisse être notre requête pour chacun de nous, non seulement aujourd'hui, mais encore demain, mais encore après-demain, car cette requête a un rapport ou est en rapport avec un élément essentiel, un élément fondamental, élément dont nous avons vraiment, véritablement besoin, si nous voulons entrer dans des dimensions de plus en plus glorieuse dans le cadre de notre marche avec lui. Notre thème est donc, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Augmente-nous la foi. Les personnes qui adressent cette requête au Seigneur sont des apôtres. Ce sont des gens qui suivaient le Seigneur depuis pas mal de temps, des hommes qu'il avait vus manifester la puissance de Dieu comme aucun prophète ne l'a fait avant lui. Il avait aperçu, il avait observé, et puis ils sont arrivés à la conclusion qu'il leur manquait quelque chose. Tout en ayant fondé leur foi en Christ, ils sont arrivés à la conclusion qu'il leur manquait quelque chose. C'est ainsi qu'ils n'ont pas hésité à se tourner vers lui et lui adresser cette requête, « Seigneur, augmente-nous la foi. Fais grandir la foi en nous. » Luc 17, Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde ou de sainvin, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître le troupeau, lui dira quand il revient de champ, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue ou ceins-toi pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous aurez fait ou vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Gloire à Dieu. À travers les évangiles, tels que nous les avons dans la parole de Dieu, nous voyons que le règne de Dieu est au centre, non seulement du message de Jésus-Christ, mais aussi au centre de son ministère. Le royaume de Dieu, voilà mes amis la raison de la venue du Christ ici-bas. Il est venu non seulement proclamer le royaume de Dieu, non seulement montrer à l'humanité qu'il y avait un royaume merveilleux, un royaume glorieux, où règne la paix, où règne la justice, où règne la félicité, mais il est aussi venu pour manifester la majesté, la gloire et la puissance de ce règne. Amen. Gloire au Seigneur. Il est venu donc pour proclamer le royaume de Dieu, mais en même temps pour manifester le règne de Dieu. C'est ainsi que lorsqu'il a commencé son ministère, il a adressé aux gens de son temps, de son époque, ce message, « Repentez-vous, car le règne des cieux s'est approché de vous. » Le règne de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous, convertissez-vous. Et lorsque le règne de Dieu, mes amis, se manifeste, d'abord à travers les évangiles et plus tard dans le livre des Actes, là nous voyons les malades être guéris. Lorsque le Seigneur a manifesté le règne de Dieu, lorsqu'il a manifesté la puissance du royaume de Dieu, eh bien les paralytiques ont marché. Les aveugles ont recouvré la vue. Des vies ont été restaurées. Alléluia. Des captifs ont été libérés. Les esclaves du diable, tous ceux qui étaient démonisés, tous ceux qui étaient sous l'emprise de toutes sortes de puissances de l'enfer, eh bien, lorsqu'ils ont été confrontés à la manifestation du règne de Dieu, tous ceux-là, mes amis, ont expérimenté la délivrance et la libération totale et entière. Gloire à Dieu. Lorsque le règne de Dieu se manifestait, eh bien, ce qui paraissait impossible aux uns est devenu tout d'un coup possible. Pensez au miracle de la multiplication de pain. Il n'y avait que 2 pains et 5 poissons. Et devant le Seigneur, il y avait une foule nombreuse. Que faire, mes amis? Quel principe appliquer? Quelle logique cartésienne ou mathématique appliquer pour arriver à nourrir une foule de presque 3000 personnes avec seulement 2 pains et 5 poissons? Humainement parlant, c'est impossible. Les lois des hommes, les principes naturels étaient incapables, mes amis, de pouvoir nourrir de manière surabondante cette foule affamée. Mais lorsque le Seigneur a manifesté son règne, eh bien ce qui paraissait impossible aux uns, cette équation qui était pratiquement insoluble, a tout d'un coup trouvé la solution. Alléluia. Des milliers d'hommes et de femmes ont mangé à leur faim. Et plus que cela, eh bien la Bible nous dit que ils ont tellement mangé qu'il y en avait. Ils ont dû remplir 12 paniers. Comment expliquer cela? Eh bien, ça, mes amis, c'est le règne de Dieu lorsqu'il se manifeste. Et je vous dirai qu'au problème des hommes, quel qu'il soit, le règne de Dieu reste la solution par excellence. Gloire à Dieu. En tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devrions vivre pleinement le règne de Dieu au milieu de nous, et nous devrions aussi le manifester au-delà, pour permettre aux uns aux autres de comprendre, réaliser que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant est toujours le même, et que celui qui détient les tenants et les aboutissants de toute situation, quelle qu'elle soit, qu'avec lui, tout est possible. Qu'avec lui, mes amis, eh bien, on peut dormir en paix, quand bien même on serait dans un désert. Car même là, dans ce désert, il est capable d'ordonner à des corbeaux de venir vous nourrir. Il est capable de faire jaillir de l'eau à partir du roc. Pourquoi? Parce que sa puissance n'a pas de limite. Parce que ses ressources sont intarissables. Donc le royaume de Dieu, ainsi que sa manifestation ici-bas, est une réalité que le Seigneur est venu apporter, est venu faire connaître aux hommes. Gloire au Seigneur. Alors comment déclencher le règne de Dieu? Comment vivre pleinement, mes amis, cette puissance de Dieu au quotidien? Eh bien, il se trouve que c'est la foi. Encore la foi, et toujours la foi, qui va nous permettre de vivre, qui va nous permettre d'agir, qui va nous permettre de marcher selon les principes du royaume de Dieu, selon les lois qui gouvernent, eh bien, le royaume du Père. Donc, si nous n'avons pas de foi, il nous sera difficile de pouvoir vivre pleinement, mes amis, cette puissance qui est appelée à agir en nous, évidemment, au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer. C'est donc la foi qui va permettre à cette puissance qui est en nous, par le Saint-Esprit, eh bien, à se manifester au-delà et à nous procurer la solution à tous nos problèmes. Gloire au Seigneur. Puisque c'est la foi qui nous permet d'entrer, mes amis, et d'expérimenter le loi, d'expérimenter la richesse, le pouvoir, la majesté, la gloire du royaume, puisque c'est la foi, alors, mes amis, notre prière, comme je l'ai mentionné tout au début, devrait être celle-ci: Seigneur, augmente-moi la foi. Non seulement faire cette prière aujourd'hui, mais demain, mais après-demain. Car la foi est indispensable dans notre marche avec lui. Car la foi, mes amis, est ce cet élément essentiel qui va nous faire entrer dans l'univers de miracles, dans l'univers du surnaturel. Les apôtres, malgré toute la connaissance qu'ils avaient du Seigneur, les apôtres, malgré, mes amis, le fait qu'ils avaient tout laissé derrière, qu'ils avaient assisté à mille et une choses, qu'ils avaient bu sa parole, qu'ils avaient entendu beaucoup de choses venant de sa part, sont arrivés à la conclusion qu'il leur manquait quelque chose par rapport à la foi. C'est ainsi qu'ils lui ont adressé cette requête sincère. Voyez-vous, Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Gloire à Dieu. Quelle a été la réponse du Seigneur? Quelle recette leur a-t-il donnée? Quelle formule spirituelle leur a-t-il proposée pour que tout d'un coup, ces hommes et ces femmes se retrouvent remplis de cette foi qu'ils demandent à Dieu? Comment le Seigneur a-t-il répondu, mes amis, à cette requête, à cette prière? Eh bien, la réponse se trouve dans ce passage. Dans ma petite connaissance de la parole de Dieu, je peux vous assurer que ce passage renferme un des grands enseignements sur la foi. Et nous allons voir de quelle foi il est question. Un des grands enseignements concernant la foi biblique, celle dont nous avons besoin. Comment le Seigneur répond à leurs requêtes? Comment le Seigneur répond à leurs prières? Eh bien, nous pouvons tout de suite voir que le Seigneur ne leur a pas proposé une formule toute faite, une recette spirituelle du genre, écoutez, mais c'est très simple. Vous faites une retraite de 40 jours, vous jeûnez pendant une semaine, la deuxième semaine, vous mangez un tout petit peu, vous priez trois fois par jour, tournez vers Jérusalem, vous faites ceci, vous faites cela. Il ne leur a pas donné une recette, heureusement d'ailleurs, car il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas de formule, mes amis. Personne ne peut vous communiquer cette foi-là. Alléluia. Personne ne peut, mes amis, avoir cette foi comme par hasard. Voyez-vous, au détour d'une rue, tout d'un coup, on a des sentiments un peu bizarroïdes, on ressent quelque chose. Ah oui, formidable. Oh, j'ai la foi. Je peux maintenant déplacer la montagne. Je peux m'adresser à ceci ou à cela et voir la chose faire ce que je lui aurais commandé de faire. À la requête des apôtres, mes amis, le Seigneur ne révèle pas une formule toute faite. Et nous devrions apprendre à nous méfier de tous ces gens qui ont toujours réponse à tout et qui pensent qu'on peut manipuler Dieu à coup de jeûne, à coup de prière et quelquefois dans le désordre. Nous devons savoir à qui nous avons affaire. C'est pourquoi tout au long de la semaine, nous avons parlé de la nécessité de dresser l'autel. Dieu est saint. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes donc appelés à développer notre proximité avec lui, à cultiver notre intimité avec lui pour mieux le connaître, afin de mieux marcher avec lui. Le Seigneur ne donne pas une recette. En revanche, il donne une réponse sous forme d'un enseignement qu'il présente à ses disciples, eh bien, comme une parabole. Une parabole. Et lorsque nous regardons à cette parabole du maître et du serviteur, eh bien, nous pouvons réaliser a priori que cette parabole n'a rien à voir avec la requête des apôtres au Seigneur. Il parle du maître avec son esclave qui s'occupe des choses du maître, qui travaille, qui s'occupe du labourage, de l'élevage, et puis quand il revient, il doit se débarrasser de tout ce vêtement qu'il avait servi à travailler dans le champ du maître, à travailler parmi le troupeau du maître, pour se ceindre, pour mettre une autre tenue de service, puisque cette fois-ci, il est dans la maison. A priori, mes amis, il n'y a pas de lien entre la requête du Seigneur et l'enseignement qui suit que nous trouvons dans cette petite parabole. Eh bien, ce sentiment-là, ou du moins cette conclusion, est entretenue par la manière dont certaines versions françaises ont délimité ce texte. Je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus pour que nous comprenions que la parabole qui suit est vraiment la réponse du Seigneur à la requête des apôtres. Et dans cette réponse, croyez-moi, il y a là un enseignement vital pour tous ceux qui aimeraient voir leur foi grandir et grandir encore. Donc, en délimitant, comme je le disais, du moins certaines versions, ce passage d'une certaine manière, ces versions laissent entrevoir que la parabole que le Seigneur donne, ainsi que la requête des disciples, n'a aucun lien. C'est ainsi, par exemple, que certaines versions, c'est peut-être le cas de votre Bible, eh bien, ce passage, ou du moins à partir de Luc 17, chapitre 1er, est divisé en trois parties. Vous savez, vous qui avez des Bibles avec des titres là, hein? Il y a d'abord les occasions de chute, et puis il y a la foi, et enfin il y a les serviteurs inutiles. N'est-ce pas? Donc, trois parties, et ceci influence malheureusement la compréhension de certaines vérités de la parole de Dieu. D'autres versions ont une césure, c'est-à-dire une coupure, entre le verset 5 et le verset 6. C'est-à-dire, Seigneur, augmente-nous la foi, il y a une césure, on coupe, et puis ce qui va suivre, c'est une autre parabole, c'est un autre enseignement, qui n'aurait aucun rapport avec ce que le Seigneur a dit, enfin, à la requête des disciples. D'autres versions encore divisent ce passage, depuis le premier verset, en deux parties, en deux blocs. Il y a le premier bloc, c'est-à-dire les cinq premiers versets, voyez-vous, où il y a les occasions de chute, et puis on termine par la prière des disciples, « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et puis, le deuxième bloc, qui serait donc constitué du chapitre 6 à 10, c'est-à-dire la parabole du serviteur ou des serviteurs inutiles. Mais mes amis, pourquoi je m'attarde un tout petit peu là-dessus? C'est parce qu'au départ, la Bible n'était pas délimitée en chapitres et en versets. Voyez-vous? La délimitation de la Bible en chapitres et en versets, eh bien, est quelque chose qui remonte à la fin du Moyen-Âge. C'est à la fin du Moyen-Âge qu'un certain Robert Estienne, qui était imprimeur, mais en même temps ami du roi François Ier, qui avait procédé à la délimitation de la Bible pour permettre une bonne lecture. Mais en délimitant la Bible d'une certaine manière, eh bien, on nous a privés de certaines vérités. Augmente-nous la foi, et puis le Seigneur passe à la parabole. Eh bien, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces coupures, toutes ces délimitations, eh bien, la parabole que le Seigneur donne, cet enseignement qu'il donne, est la réponse à la requête des apôtres. Augmente-nous la foi. Alléluia. De quelle foi s'agit-il? Ces apôtres avaient cru en lui, oui ou non? Ils avaient compris que c'est lui le Messie. En ayant placé leur confiance en Christ, ils avaient expérimenté le salut, parce que Dieu, le Seigneur, leur avait même demandé dans la prière d'appeler Dieu leur notre Père qui est. Donc c'était des gens qui avaient déjà une certaine relation avec le Seigneur. Certains d'entre eux avaient déjà eu le privilège de chasser les démons, oui ou non? Ils avaient déjà eu l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Mais voilà qu'ils demandent au Seigneur d'augmenter leur foi. De quelle foi s'agit-il? Première chose, car il y a beaucoup à dire, je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard, un autre dimanche, pourquoi pas au cours d'un séminaire. Eh bien, la réponse du Seigneur commence par un constat, sous forme d'une phrase, une proposition conditionnelle. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, ça veut dire quoi? Entre temps, l'ont-ils? Non, je pose la question, non? Ah, c'est une proposition. Si tu entends quelqu'un dire, oh, si j'étais un homme politique, est-ce que ça veut dire qu'il est? Ah, ok. Voilà. Si j'étais riche, donc présentement, on n'est pas. Oh, si j'avais un diplôme de médecine, donc on l'a. Donc, si vous aviez la foi, donc ça veut dire à l'instant où les apôtres demandent au Seigneur, ils n'ont pas ce type de foi. Et pourtant, ils croient en lui. Alléluia. Et pourtant, ils ont choisi de tout laisser pour le suivre. Parce qu'ils avaient compris. Un de leurs avait même confessé. Quand le Seigneur leur avait dit, mais dites-moi un peu, vous qui vivez avec les gens, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Oh Seigneur, vous savez, il y en a qui pensent que vous êtes le prophète Élie qui est revenu. Il y en a qui pensent que vous êtes peut-être Jean-Baptiste, etc. Bref, il y a différentes opinions, Seigneur. Alors il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Sur le champ, Pierre prend la parole, dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En d'autres mots, ce n'est pas ta capacité spirituelle ou morale. Ce n'est pas ton érudition, ce n'est pas ta culture cérébrale qui t'a amené à faire cette confession. C'est mon Père qui vient de te donner cette révélation. Donc quelqu'un comme Pierre et les autres, ils avaient déjà, mes amis, la foi. Et pourtant, ils demandent. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur commence par ce constat. Il leur montre qu'effectivement, ils n'ont pas encore ce type de foi que nous allons examiner par la suite. Et il dit même, si vous aviez de la foi, vous diriez à ce mûrier, si vous aviez la foi, vous diriez, donc, sur le champ, lorsqu'ils font la prière au Seigneur, lorsqu'il lui adresse cette requête, ses apôtres n'avaient pas cette sorte de foi. Alors, quelle est cette sorte de foi? D'abord, c'est qu'elle n'est pas. Ce n'est pas la foi du salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en... Donc, cette foi n'a rien à voir avec le salut. Pourquoi? Parce que la foi du salut n'est pas quantifiable. Elle ne peut pas être grande ou petite. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire, oh, moi j'ai une grande foi de salut. Et par conséquent, je suis plus sauvé qu'un autre qui aurait une petite foi dans le salut, que lui serait moins. Non. On ne peut pas être plus sauvé ou moins sauvé. On est, gloire à Dieu. C'est un état. C'est une dignité, c'est un statut, c'est une identité. Nous sommes, gloire à Dieu. Puisque cette foi, dont il est question quantifiable, parce qu'elle peut être petite ou, alors elle n'a rien à voir avec la foi du salut. Augmente-nous la foi. On est sauvé, on n'est pas sauvé. On ne peut pas dire non, oui, mais... Moi, je suis entre les deux. J'ai mon pied et une partie de mon cœur dans le royaume de Dieu. Donc, je suis un peu sauvé. Et je suis un tout petit peu perdu. Ou je suis sauvé à 50%, donc j'ai une foi, la moitié de la foi du salut. Ou je suis sauvé à 75%. Non. Le salut, c'est toujours à 100%. Donc, puisqu'il en est ainsi, la foi qu'il demande, ce n'est pas celle du salut. Parce que la foi du salut n'est pas quantifiable. Elle ne peut pas grandir ou elle ne peut pas diminuer. Avoir une grande foi pour avoir un grand salut ou avoir une petite foi pour avoir une petite salut. Eh bien, si vous aviez de la foi comme un grain de sable, de sénévé ou de moutarde, ça montre, première leçon, que cette foi qu'il demande et sur laquelle le Seigneur eh bien, va leur donner des enseignements, n'a rien à voir avec la foi du salut. Gloire au Seigneur. Si vous aviez la foi, donc la première chose, elle n'est pas la foi du salut, parce que cette foi est quantifiable. La deuxième chose, le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, c'est-à-dire, il objective la foi, c'est quelque chose qu'on peut avoir et recevoir. Alléluia. Donc, or, la foi du salut, ben, nous sommes dans le salut parce que nous avons cru en... Gloire au Seigneur. De quelle foi s'agit-il, mes amis? Eh bien, sans plus tarder, il s'agit de la foi des miracles. Il s'agit de la foi qui nous fait entrer dans l'univers du surnaturel. Il s'agit de la foi qui nous permet de marcher sur les eaux, quelle que soit leur agitation. Il s'agit de cette foi, mes amis, que le Seigneur a démontré partout où il allait. Eh bien, il était en paix, il avait la sérénité, car il savait la puissance, la gloire du royaume qui était le sien. Et c'est ainsi qu'il ne s'est jamais agité. Lorsque les disciples se sont retrouvés face à cette tempête qui menaçait de faire chavirer leur barque, lui se reposait à la poupe, hein. Et ils se sont agités, la panique, etc. Ils sont allés le réveiller, Seigneur, Seigneur, mais ça ne te fait rien, voilà, si ça continue comme ça, nous allons tous couler. Mais lui se reposait, pourquoi? Parce que tant que lui est là, il n'y a rien qui puisse nous inquiéter. Cette foi-là, mes amis, qui amène l'homme ou la femme en Christ d'être en paix, quel que soit le contexte, c'est une foi miraculeuse, entre guillemets, c'est cette capacité à nous faire entrer dans l'univers du surnaturel. C'est cet élément essentiel qui va nous amener, mes amis, à vivre le miracle au quotidien. Quand bien même nous verrions devant nous une montagne de problèmes, une montagne d'obstacles, rien ne nous arrêterait. Cette foi, eh bien, nous permettra d'avancer et d'avancer encore, sachant que celui qui est en nous a le pouvoir eh bien, de déplacer toute montagne, quelle qu'elle soit. Cela demande plus que, mes amis, un effort cérébral, hein, un effort mental. Hein. Cela demande plus qu'une simple confession. Au nom de Jésus, montagne, déplace-toi. Allez, problème, j'ai dit non, problème. J'ai dit non, problème, j'ai dit non. Allez, répétez 10 fois. J'ai dit non, problème, j'ai dit non, problème. Pendant qu'on le dit là, le cœur est ailleurs. Voilà. Dites 7 fois. Alors les gens répètent. Mon problème est parti. 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 Amen, amen. Oui, on peut ressentir quelque chose, mais ce n'est pas pour autant que le problème est parti. Car comme nous allons le voir, la foi qui censait faire partir le problème, ou trouver la solution au problème, est plus que cette confession verbale. Même si la confession verbale a sa place, quand Jésus est arrivé en face de ce figuier, eh bien, il s'est approché de cet arbre, il n'y a pas trouvé de fruit, il a prononcé une parole de foi. Et puis il est parti. Plus jamais qu'il y ait de fruits. Au retour, le lendemain, quand il repasse par là, les disciples réalisent qu'effectivement, l'arbre avait séché. Incroyable. Voyez-vous? L'arbre avait séché. Il y avait eu la confession.
Alléluia.
Même si la confession a sa place, mais ce n'est pas le simple fait de confesser qui changerait quoi que ce soit. C'est ainsi que les gens se retrouvent avec ce positivisme qu'on apprend, qu'on étudie en psychologie. Et ils font passer ça pour la foi. Je ne suis pas malade, amen, je ne suis pas malade. Entre-temps, la malaria ronge le corps, je ne suis pas malade, amen. Je ne suis pas malade. Bon, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Mais n'importe qui pourrait dire ça. Vous savez ça? C'est pourquoi nous devons comprendre. C'est pourquoi, mes amis, cet enseignement, quand moi-même je l'ai découvert, ça a été une grande richesse pour moi. Alléluia. Augmente-nous la foi. Il commence par leur montrer qu'effectivement, ils n'avaient pas ce type de foi. Et que s'ils avaient ce type de foi, ne serait-ce qu'à la taille du grain de moutarde, tellement minuscule, rien qu'avec ça, ils parleraient à un mûrier, à un arbre, à une montagne, et la montagne obéirait. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, si vous l'aviez, cette foi-là, ne serait-ce que minuscule, vous vivriez de miracles extraordinaires.
Alléluia.
La moutarde, c'est un arbre très commun en Israël, qui pousse notamment dans la région de ce fameux lac qu'on appelle le lac de Galilée, ou de Kinneret, ou Génézareth, ou le lac de Tibériade. Eh bien, on l'appelle aussi Sénevé. Et cet arbre ou cette plante peut atteindre 3 à 4 mètres, voyez-vous. Et ces grains, à l'époque, de ce grain ont tiré le condiment portant le même nom, c'est-à-dire la moutarde. Et ces grains étaient si minuscules, tellement petits, qu'on utilisait cela de manière proverbiale pour désigner quelque chose de tout petit. C'est-à-dire, dans le royaume des géants, où tout le monde aurait 3 mètres, moi, on aurait pu me dire, « Ah, oh, lui, c'est comme un grain de sénevé. » Mais je suis grand, ne vous en faites pas. Vous voyez? Donc, c'était rentré dans le langage courant pour désigner quelque chose de tellement petit, de tellement minuscule, et c'est de manière proverbiale, eh bien, on l'utilisait, on se référait au grain de moutarde. Donc, cette foi-là, quantifiable, peut être petite ou peut être grande. Et par conséquent, elle est donc dynamique, alléluia. Elle est appelée à grandir. D'abord à naître. Parce que le grain de moutarde, dans le grain de moutarde, il y a la vie, non? Mais pour que la vie qui se trouve dans le grain de moutarde puisse produire un arbre, afin qu'à partir de cet arbre, on recueille de fruits, et que de ce fruit, on recueille la semence, il faut que ce grain de moutarde soit jeté dans la terre. Donc ça veut dire que cette foi, mes amis, ne naît pas au hasard. Il y a des conditions qui doivent être créées pour que cette foi-là naisse, non pas une foi, parce que si elle naît, et que les conditions ne continue pas à lui être favorable, eh bien, ce grain ou la plante qui sera née va quoi? Va mourir, non? Il faudra l'arroser régulièrement. Il faudra veiller, voyez-vous? Il faudra tout faire pour que cet arbre reste toujours dans des bonnes conditions qui lui permettent d'avoir du fruit en saison ou hors saison. Gloire au Seigneur. Alors comment cette foi? Oh, Dieu, comment cette foi naît-elle? Comment peut-elle naître dans le cœur d'un homme? Comme je vous ai dit, il n'y a pas un arbre spirituel dans la parole de Dieu comme une sorte de cocotier spirituel qu'il faudra secouer très fort, à coup de jeûne, à coup de prière. Oh, et puis le coco tombe, formidable, et puis on ouvre, on mange. Tiens, j'ai la foi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur ne leur a pas donné une recette magique. Il ne leur a pas donné une formule toute faite. Il ne leur a pas dit, écoutez, la recette spirituelle, eh bien, c'est ça. Vous faites ceci, un peu de dose de jeûne, un peu de zeste du citron, spirituel, vous mélangez avec ceci, vous faites cela, eh bien, ça va vous donner un cocktail extraordinaire. Voyez? Et quand vous prendrez ça fini, cette foi va naître. C'est faux. Au temps des bishops, au temps d'évêques, au temps de prophètes ou d'apôtres, pourraient, mes amis, vous imposer les mains, c'est pas pour autant que cette foi naîtrait. C'est pourquoi je vous ai dit, dans cet enseignement, dans cette parabole, il y a un des grands enseignements qui, quelque part, rejoint un peu ce que nous avons vu tout au long de la semaine. Nous allons essayer de nous concentrer sur la parabole. Parce que la solution, la réponse à la requête des apôtres se trouve là. Il est donc question d'un maître avec son esclave, littéralement. C'est le mot utilisé, esclave ou serviteur. Mais vous savez, serviteur, c'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, parler d'esclavage pourrait paraître un peu impertinent, hein, voyez-vous. Mais bon, le terme utilisé ici, c'est esclave. L'enseignement donc principal de Jésus par rapport à la requête des apôtres s'articule, mes amis, principalement, essentiellement, autour de la relation du maître avec son serviteur. Tout tourne autour de là, alléluia, gloire à Dieu. La relation du maître avec son serviteur et du serviteur avec son maître. C'est là, mes amis, que tout se joue. C'est là, et seulement là, qu'alors quelque chose peut se passer. Il y a donc le maître et sa volonté, le maître et ce qui lui appartient, mais il y a aussi l'esclave qui est donc chargé de travailler dans ce qui appartient au maître. L'esclave qui est appelé non seulement à être actif dans les choses qui appartiennent au maître, en particulier ici les deux activités principales de l'époque, à savoir le labourage et l'élevage, travailler la terre, etc., s'occuper du bétail, mais le maître, plutôt l'esclave, a aussi une autre responsabilité. Quand il a fini d'être actif dans les choses de son maître et qu'il rentre à la maison, au lieu que le maître lui dise, voilà, très bien, fidèle serviteur, tu as enduré le soleil, tu as enduré le froid, s'il a travaillé en hiver ou en saison sèche, tu as transpiré, etc. Maintenant, écoute, va prendre ta douche, repose-toi. Pas du tout. Quand il arrive, le maître lui demande de se ceindre, de mettre un tablier de service. Cette fois-ci, non pas pour s'occuper des choses qui appartiennent au maître, mais cette fois-ci pour s'occuper du maître lui-même. Alléluia. Pour s'occuper du maître lui-même, parce que le maître doit manger. Alléluia. Le maître doit boire. Le maître doit être rassasié. Quand il sera rassasié, quand le serviteur aura tout fait, le maître lui promet qu'à son tour, il mangera. Qu'à son tour, il boira. Le maître est indicatif, déclaratif, affirmatif dans ce propos. Mais Il y a un ordre que le serviteur doit respecter. Il doit d'abord et avant tout s'occuper du maître, avant de s'occuper de soi-même. Voilà pourquoi je vous disais que ça rejoint ce que nous avons vu tout au long de la semaine. Et vous avez déjà compris ce à quoi je vais arriver. Le maître, d'un côté, avec sa volonté, avec tout ce qui lui appartient, et de l'autre, le serviteur, l'esclave, qui est appelé à être actif dans les choses du maître, qui est appelé à être actif, à ne pas croiser le bras. Non, il est appelé à être actif. Le Seigneur est clair. L'esclave travaille la terre. L'esclave s'occupe du bétail. Voyez-vous? Et quand il revient, eh bien, là, il doit aussi et surtout s'occuper de son maître. Donc, il y a le maître et sa volonté avec tout ce qui lui appartient. Il y a aussi l'esclave qui n'a pas d'autre volonté que de se soumettre à la volonté de son maître, qui n'a pas d'autre priorité, mes amis, que de s'occuper de son maître et de ce qui appartient à son maître. Et entre les deux, il y a une relation. Entre les deux, il y a donc une relation de service de l'esclave envers les choses du maître, mais aussi de l'esclave envers son maître. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Donc, tout tourne autour, mes amis, de cette relation. C'est ce qui va déterminer plus tard si le serviteur doit manger, si le serviteur doit boire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes amis, pour aller plus vite et permettre à chacun de nous de comprendre, c'est que la foi qui nous fait entrer dans l'univers du miracle, son secret se trouve dans ce texte. C'est que le Seigneur attend de chacun de nous, que chacun de nous comprenne que la foi du miracle, la foi du surnaturel, naît d'une relation de plus en plus intime avec celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Il faut qu'il y ait une grande proximité. Il faut que l'esclave, serviteur que nous sommes, peu importe notre position dans le corps du Christ, que nous comprenions, mes amis, que pour que cette foi naisse, qu'elle puisse grandir, il faut que nous créions les conditions. Il faut que nous vivions avec la mentalité du serviteur. Il faut que la personne du maître, ainsi que ce qui lui appartient, devienne pour nous de priorité. C'est seulement de cette manière que cette foi naîtra et commencera à grandir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette foi naît de cette relation. Elle est donc la résultante de l'activité du serviteur vis-à-vis de choses qui appartiennent à son maître et aussi de l'activité du serviteur envers la personne du maître. Vous avez l'abscisse et l'ordonnée. Et c'est tout, vous avez la solution. Vous avez un abscisse, un ordonnée, ou vice-versa. Eh bien, vous avez le service, être actif dans les choses du maître, être actif envers le maître. Alors là, à l'intersection de deux, cette foi va naître. Plus nous grandirons dans le service concernant les choses de Dieu, plus nous grandirons dans notre responsabilité vis-à-vis de la personne de Dieu lui-même, plus cette foi au milieu fera quoi? Voilà, mes amis. Alléluia. C'est tout. Voilà la réponse du Seigneur à la prière. Augmente-nous la foi. Mes amis, nous sommes appelés à entretenir notre proximité avec le Seigneur. Nous sommes appelés à restaurer l'autel. Nous sommes appelés à entrer dans une communion beaucoup plus grande avec le Saint-Esprit. Les premiers apôtres l'avaient compris. Et le premier disciple l'avait également compris, mes amis. Leur priorité, c'était de s'attarder davantage dans la chambre haute. Leur priorité, c'était d'entrer régulièrement dans la salle du trône. Avoir un face-à-face régulier avec celui dont la parole est créatrice. Et c'est seulement après qu'ils allaient pour être actif dans les choses de Dieu. Mon frère, ma sœur, l'Église, notre Église, te donne autant d'opportunités de te rendre utile par rapport aux choses qui appartiennent au Seigneur. N'est-ce pas? Tu peux témoigner. Sache qu'à chaque fois que tu le fais, tu travailles dans le champ de Dieu. Tu peux t'occuper des âmes. Chaque fois que tu le fais, tu t'occupes des brebis du Seigneur. Pas forcément avec un ministère attitré. N'importe qui, un enfant de Dieu, peut exhorter un autre ou non. Pendant que tu le fais, pendant que tu l'encourages, tu es en train de t'occuper du bétail du Seigneur. Alléluia. Quand nous organisons des moments de jeûne et de prière, tu es en train de t'occuper des choses qui appartiennent au Seigneur. Mais, il y a aussi et surtout ta responsabilité vis-à-vis du Maître lui-même. Celui que nous venons rencontrer dans ces lieux. Ne venez pas pour voir un homme ni pour entendre un homme, vous seriez déçus. Je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres voix. Mais venez pour rencontrer le Seigneur. Car moi, je peux tout dire. Mais il n'y a que ce qui vient de lui, qui seul est capable de créer de bonnes conditions dans ton cœur. Alors, cette foi va naître et va commencer à grandir petit à petit. Et votre capacité à affronter les obstacles, eh bien, deviendra aussi grande. Alléluia. C'est ainsi que, quoi qu'il arrive, tu sauras une chose, c'est que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est derrière le problème. Quand on marche de cette manière, on n'hésitera pas à quitter la barque. Comme Pierre, le Seigneur lui a dit, Pierre, sors! Il a été animé par cette foi, alléluia. Il a été animé de cette foi, il est sorti, il a laissé le confort derrière lui, il a laissé la sécurité de la barque, et il a pris le risque de marcher sur les eaux. Tant qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur, tant que son cœur battait au rythme du ciel, eh bien, les eaux sont devenues comme le boulevard du 30 juin. Oui, il pouvait même courir. Alléluia. Alléluia. Mais c'est lorsque ses yeux ont commencé à se détourner du Seigneur. Et là, la Bible nous dit, il a commencé à s'en. Mon frère et ma sœur, Dieu voudrait que tu expérimentes sa puissance. Nous l'avons vu tout au long de la semaine. Notre génération a besoin de voir que Jésus est vivant. Notre génération, le monde a le droit de nous demander des preuves évidentes quant à l'actualité, à la véracité de la parole de Dieu. Oui ou non? La fausse religion, même les religions monothéistes, eh bien, ont leur droit de nous demander, démontrez-nous que votre Jésus est vivant. Mais c'est avec cette proximité, avec cette communion de plus en plus grande, comme Élie au mont Morija sur la hauteur du mont Carmel, plutôt sur la hauteur du mont Carmel, avec cette foi-là, serein, pas d'excitation, pas de stress inutile. Il est confiant. Il sait que celui qui est avec lui est plus fort que Baal. Il sait que le Dieu qui s'était révélé à lui, devant qui il se tenait, eh bien, tenait le monde entier dans sa main. Il n'a pas regardé au nombre de ce faux prophète. Il n'a pas regardé, il ne s'est pas laissé impressionner par toute cette foule. Mes amis, qui clochaient un pied dedans, un pied dehors, rebelles, idolâtres, eh bien, non! Il a levé les yeux simplement vers le ciel. Et il savait que tant que Dieu sera avec lui, eh bien, personne ne pourrait lui résister. Et c'est comme ça qu'il a défié l'enfer. Mes amis, cette foi-là naît d'une relation intime, de plus en plus intime. Cette foi-là ne naît pas au hasard. Alors, mon frère et ma sœur, je m'arrêtais là. Il y a beaucoup à dire. Comme je vous ai dit, je reviendrai là-dessus. Je pense qu'au cours d'un séminaire, ça serait une très très bonne chose, parce que nous devrions voir comment manifester cette foi lorsqu'elle est là. Mais une chose est sûre, mon frère, ma sœur et vous tous qui nous suivez à la télé, c'est que Dieu voudrait que vous ayez ce type de foi qui vous fasse entrer dans l'univers du surnaturel, qui vous amène à expérimenter la puissance et la majesté du royaume de Dieu. Eh bien, cette foi-là naît dans un cœur qui trouve son plaisir à louer, à adorer son Créateur. Un cœur qui est pétri de la crainte de Dieu, un cœur intègre. Mes amis, prenons la résolution d'être actifs dans les choses de Dieu. Sommes-nous appelés à prêcher? Prêchons la parole. Sommes-nous appelés à être diacres, diaconesses, anciens? Eh bien, assumons cette responsabilité. C'est ça, être actifs dans les choses de Dieu. Et puis ensuite, ne l'oublions jamais, quelle que soit la fatigue. Quelle que soit la fatigue, quand nous revenons à la maison, il nous attend parce qu'il doit manger. Alléluia. Quand est-ce qu'il mange? Quand est-ce qu'il boit? C'est lorsque nous lui apportons notre louange, notre adoration. Alléluia. Lorsque nous plions nos genoux devant lui, nous lui disons, Seigneur, je t'apporte ma vie. Seigneur, je te donne mon âme. Sois loué. Et la seule dans le secret. Et la seule dans la salle du trône. Personne d'autre n'est là. Aucun ange, aucun archange, aucun pasteur, aucun apôtre. Personne. Notre Père est. C'est comme ça que cette foi va commencer à naître et à grandir. Et nous serions une église, mes amis, remplie d'hommes et de femmes, eh bien, qui marchent par la foi, qui défient l'enfer, qui marchent sur le scorpion, sur le pouvoir et l'autorité des ténèbres. Oh, la foi dans le miracle! C'est possible avec Jésus! Alors, ne courez pas après telle ou telle autre bénédiction. La plus grande bénédiction, vous ne pourrez la trouver que là, dans la salle du trône, dans le Saint des Saints, à genoux, devant le Créateur. C'est là, d'ailleurs, que tu vas prendre conscience de ce que c'est la sainteté, de ce que c'est la pureté, de ce que c'est avoir un cœur rempli de sa crainte. Et là, tu vas commencer à haïr le mal. Oh, que Dieu descende au milieu de nous. Mes amis, qui ne viennent pas simplement pour une petite visite. Ma prière, à chaque fois que nous sommes là, que son trône soit dressé au milieu de nous. À chaque fois que nous nous rassemblons, mes amis, que l'autel, là où se manifeste sa gloire, soit dressé au milieu de nous. Mais cela n'est possible que si vous et moi, nous appliquons l'enseignement de ce serviteur actif dans les choses de Dieu, et quand il revient, il ne regarde pas sa fatigue. Il ne cherche pas d'excuses en disant, « Ah Seigneur, bon tu comprends quand même, non. » Quand il revient, il doit lui donner à boire, il doit lui donner à manger. Il est là, quelquefois il est tellement fatigué, aucun mot ne sort de la bouche. Mais son âme, alléluia, son âme est en prière. Quelquefois, les lèvres bougent simplement. Bougent simplement. Et là, le Saint-Esprit lui vient en aide. Alléluia, lui donne la langue du ciel. Et là, il se met à parler parce que nos langues sont limitées. Mon frère, ma sœur, Dieu veut répondre à cette prière. Augmente ma foi. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Que chacun prie, qui dit Seigneur, je voudrais être actif dans ce qui t'appartient. Actif dans mon église. Actif dans tout ce que tu me demandes de faire. Mais en même temps, je voudrais être actif dans ma relation, dans ma responsabilité vis-à-vis de toi, dans l'adoration, dans la louange. Que rien ne m'empêche, Seigneur, à venir chaque jour te donner à boire. Que tôt le matin, que je précède l'aurore pour aller t'apporter ton petit déjeuner. Seigneur, que tout au long de la journée, que j'entre dans la salle du trône, que je t'apporte ce que tu attends de moi. Et que le soir, que je n'aille pas dormir sans t'avoir présenté ton souper. Eh bien, si le Seigneur est rassasié de cette manière, il promet que tu mangeras, quand bien même tu serais dans le désert. Il promet que tu boiras, quand bien même tu serais là où il n'y a pas d'eau. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui cherchent cette intimité avec toi, qui cherchent à entrer dans une relation beaucoup plus intime. Garde-nous de la paresse et de la fainéantise spirituelle. Il y a tant à faire dans ton Église. Donne-nous d'être actifs, Seigneur, car c'est dans cette activité, dans cette interaction avec ce qui t'appartient, Seigneur, mais aussi surtout avec toi, que va naître cette foi du miracle, cette foi du surnaturel, cette foi qui va nous permettre à déplacer les montagnes, quelles qu'elles soient, à expérimenter la guérison, à prendre autorité sur les puissances démoniaques, à régner et à dominer nos adversaires, quels qu'ils soient. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Merci, Seigneur. Alors que nous sommes encore devant toi, Seigneur, je voudrais te demander de poser ta main sur, Seigneur, ce service des offrandes. Que ce soit aussi un moment où nous t'apportons quelque chose qui te plaît, où nous te donnons à manger à partir de ce que nous avons. Ça aussi, Seigneur, c'est ça, être actif dans ton œuvre. Être actif avec ce que nous avons. Être actif avec le produit de notre travail et de nos affaires. Bénis, Seigneur, ces paniers, alors qu'ils vont circuler dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.